Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de recevoir pour cette dernière émission de l'année 24, Michel Raymond de l'atelier Michel Raymond et Associés. Bonjour Michel.
Bonjour Myriam.
Alors, on a beaucoup évoqué les objets complexes que sont les hôpitaux, la programmation, le fait de travailler sur ces objets complexes et de faire en sorte que la fonctionnalité soit, on va dire, au service de tous. Mais j'ai besoin de savoir un petit peu, justement, quand on travaille sur des projets on va dire peut-être à l'étranger. Comment fait-on à l'étranger pour, enfin en tout cas hors des frontières françaises, pour comprendre encore plus ce que sont les autres et leurs fonctionnalités, puisque justement, par essence, elle est différente.
Oui, ça dépend. Quand on fait un hôpital au Maroc, les manières de travailler des médecins marocains ne sont pas tout à fait les mêmes que les médecins français. Par exemple, au Maroc, il y a un truc très particulier, c'est les familles.
Ah oui.
Quand on accueille des familles, on accueille beaucoup de monde.
Mmh.
En France, on a une espèce de dans une réanimation, par exemple, on accueille une ou deux personnes,
ouais.
Etc. Donc le bâtiment et l'accueil des familles dans une réanimation, c'est très complexe, douloureux, grave. Il faut faire très attention à respecter les gens. Au Maroc, on accueille tout d'un coup 10 personnes, 20 personnes, c'est très différent, quoi.
Voilà. Alors justement, c'est important.
Donc, il y a des différences comme ça. Après, il y a d'autres différences quand on fait un bâtiment de recherche de nanotechnologie à Tel Aviv, qu'on a livré cette année. Il n'y a pas énormément de différence dans un chercheur qui travaille sur un microscope électronique.
Qu'il soit israélien ou français.
C'est pareil. Après, les Israéliens, peut-être, on va le dire sans polémique, mais ils travaillent peut-être avec des moyens beaucoup plus comprimés, quoi. Ils se débrouillent avec moins de choses pour arriver à faire des choses extraordinaires, voilà. Donc, il faut être efficace de partout.
Alors justement, quand on travaille à l'étranger, tu prenais l'exemple du Maroc, et là on prend aussi l'exemple d'Israël et de Tel Aviv. Qu'est-ce qui fait qu'on a une approche ? D'abord, on travaille, je suppose, avec des confrères, hein.
Oui, tout
on n'est pas
oui.
seul,
bien sûr.
Des confrères, des consoeurs. Qu'est-ce qui fait que du coup, on a le sentiment de pas être un intrus, de justement pouvoir approcher d'une manière aussi efficace. Alors tu disais, les chercheurs sont tous les mêmes derrière le microscope, mais à part ça, comment on traduit justement ça par un bâtiment de recherche qui n'est pas avec le même ciel que le ciel de Paris?
Le ciel, c'est important. Le sol, c'est important. Ils poussent pas les mêmes plantes, que ce soit à Tel Aviv ou au Maroc. D'ailleurs, c'est pas du tout la même chose qu'à Bruxelles. Bon. Mais ça, c'est important. Le sol est pas nourri de la même façon. C'est important. Ça se voit beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'on est toujours à penser qu'on peut être un intrus. Et il faut faire extrêmement attention à ça. Ça, c'est un problème humain, de délicatesse, de respect des autres. Mais ça, je pense que c'est... Quand on est humain, on fait attention, mais forcément, faut faire attention à ça. Faut pas arriver comme un cow-boy qui voilà. N'empêche, quand on arrive, moi je parle de mes exemples, mais il n'y a pas que ça. Quand on est arrivé à Tel Aviv, on a gagné un concours international, on n'avait pas de partenaires locaux encore. On avait un programme, on avait un chercheur et puis un donateur célèbre qui
avait financé le bâtiment, qui allait financer le bâtiment.
Oui, qui finançait et qui organisait le concours.
Mmh.
Et on a répondu à sa demande à la fois de fonctionnalité et de prestige. Là, c'était très clairement exprimé. Il fallait que ce bâtiment-là soit un bâtiment prestigieux, qui soit à l'entrée de l'université, qui reflète...
D'accord, donc voilà. Du coup, là, la fonctionnalité était équivalente à quelque part le paraître, hein.
Toujours c'est équivalent, sauf que là c'était mieux exprimé à l'origine.
D'accord.
Pour nous c'est toujours équivalent. Là c'était exprimé, parce que quand on fait un hôpital lambda en France, on ne nous demande pas de faire un beau bâtiment en fait, c'est, malheureusement c'est comme ça. On nous demande que de faire la bonne fonction, mais ça ne veut pas dire que nous on n'a pas envie de faire ça.
Oui, bien sûr.
Voilà. Là c'était exprimé, c'était un bâtiment emblématique, comme on dit, le mot emblématique est tout à fait adapté, et la fonctionnalité parfaite, avec des salles blanches, avec des choses où quand on fait un mètre carré de local, il y a 2 mètres carrés dessus.
De technique.
Et de technique vraiment très très particulière qu'on avait l'habitude de faire parce qu'on avait fait déjà des bâtiments comme ça en France. Et donc ça, après on a gagné le concours, après on a trouvé un partenaire local que l'université nous a aidé à trouver, qui savait faire des bâtiments techniques comme ça, avec qui on s'est très bien entendu, et qui gérait, même si pendant le chantier c'était compliqué, parce que c'était le Covid, donc on pouvait pas trop...
D'accord, donc c'est lui qui suivait le chantier.
Avec nous, toujours, ouais. Avec l'expérience de la visio, on arrivait à suivre beaucoup de choses. Vérifier les plans en hébreu, c'était plus compliqué, mais jusqu'au pro, les plans étaient en anglais. Donc ça allait bien. Les plans de chantier étaient en hébreu, mais avec des techniques simples, on arrivait à surveiller tout ça, et ça marchait très bien, oui. Et le résultat est parfait, à part 2-3 bricoles que... Bon, enfin bon, c'est rien, quoi. Le résultat est parfait, y compris dedans. Il n'y a pas que la façade qui compte dans la réussite de ce bâtiment, je pense. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à imaginer justement la lumière, puisque le ciel est différent, la terre est différente, et que tu insistes justement sur cette impression subtile du paysage sur le bâti? Comment fait-on pour comprendre ça, avant que ce soit construit?
Déjà, dans sa culture d'architecte, quand on se promène en Hollande ou quand on se promène à Marseille ou autour de la Méditerranée, on voit bien que les bâtiments sont pas les mêmes pour accueillir la lumière à l'intérieur, la filtrer et des choses comme ça. Déjà, c'est forcément très différent. Donc là, on a cette culture qui a une différence et comment on va la gérer avec les problématiques du bâtiment en question. Ensuite, moi, depuis 76, j'ai écrit un livre avec un copain qui s'appelle Frédéric Nicolas sur l'architecture bioclimatique. Et donc, depuis le début, j'ai toujours été obsédé par, dès qu'on met un bâtiment, où est le nord, où est le sud, et donc où le soleil se lève, où le soleil se couche, où est-ce que le soleil se lève le 21 juin, où est-ce que le soleil se lève le 21 décembre, c'est pas la même chose.
Même chose aussi selon le pays où on est.
Tout à fait. Et donc, à chaque fois, cette question-là, elle est forcément extrêmement prédominante pour que le bâtiment soit composé avec l'orientation. Pour moi, c'est même si orientation, ça ramène au mot orient, mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire la manière de tourner par rapport au soleil, quoi. Voilà.
Mais alors, du coup, si l'orientation, on a bien conscience que l'orientation c'est important, mais tout de même, quand on fait un bâtiment aussi fonctionnel et avec autant de technologies qu'un bâtiment de recherche, justement dans un pays où il fait chaud, est-ce qu'on peut éviter la dépense d'une clim? Est-ce qu'on peut éviter des choses qui, quelque part, viennent handicaper aussi un petit peu le budget? L'architecture bioclimatique, ça pourrait s'entendre avec un peu plus de naturel.
Dans des laboratoires de recherche, la clim, c'est obligatoire. De toute façon, en plus, les laboratoires de recherche de nanosciences et tout, il n'y a pas de fenêtre dans le laboratoire. C'est complètement étanche pour avoir des manipulations avec de l'optique qui sont sans aucune pollution lumineuse. Donc, de toute façon, après, il y a les bureaux autour et les circulations et les locaux d'accueil où là, il y a ça. Donc, bien sûr, on fait une enveloppe protectrice. Et
c'est
sauf
ça.
Que là, l'enveloppe, dans ce bâtiment-là, on essaie de que les choses soient, aient plusieurs sens. Dans une architecture, les choses n'ont jamais une seule raison. Ça, c'est tous les architectes le disent depuis la nuit des temps. Et donc là, l'enveloppe à Tel Aviv, ça a été une enveloppe qui, à la fois, était un filtre lumineux, une espèce de protection comme ça, visuelle et d'intimité aussi, d'ailleurs, visuelle et de l'ensoleillement, et puis aussi une manière de raconter le bâtiment. Et ce bâtiment-là, on le raconte d'une certaine façon, où d'habitude, on dit toujours... faut faire de l'architecture humaine. Moi, l'architecture humaine, ça me fait chier. J'aime pas ça, parler de l'architecture humaine.
Quand on a fait
de 40 ans, moi, je fais de l'architecture surhumaine. Bon. L'architecture humaine, c'est un truc, ça veut rien dire, quoi. Et là, on a fait de l'architecture à l'échelle humaine. Et là, on n'a pas fait de l'architecture à l'échelle humaine exprès. Parce que ce qui se passe dans ce bâtiment, c'est quelque chose qui est à l'échelle de l'infiniment petit,
oui, c'est ça,
totalement inhabituel. Ouais. Donc on a fait un bâtiment et on a gagné pour ça. On a fait
imaginer.
Un bâtiment, il n'y a pas de fenêtre, on rentre d'une façon comme pousse un rideau, comme on rentre dans une tente un peu, etc. Une tente géante. Et quand on voit le bâtiment, on ne sait pas trop la taille qu'il a. Il y a une espèce de jeu d'échelle comme ça qui fait que on ne raconte pas l'échelle humaine, on sait pas le dire. Mmh. Il y a des bâtiments comme ça dans le monde où mais il y en a pas beaucoup, et donc ça c'était une recherche qu'on a fait dès le début, raconter l'infiniment petit
sans échelle
et ne ouais. pas raconter l'échelle humaine, retirer tous les éléments qui pouvaient, alors une fenêtre ça raconte une échelle humaine,
bien sûr.
Une porte là il reste la main courante sur les marches pour remonter au bâtiment, c'est tout quoi, voilà.
Alors c'est un bel exemple, mais c'est aussi quelque part le début de, enfin, puisqu'il est livré cette année, est-ce à dire que c'est aussi l'image de l'évolution de l'atelier ?
Bah, c'est assez amusant de travailler à l'étranger.
C'est un peu ça quand même.
C'est pas toujours amusant, mais c'est globalement assez amusant. Et moi, si je travaille, c'est parce que je m'amuse. Sinon, je ferai autre chose, quoi.
Donc il y a le Maroc, l'Algérie.
Et donc c'est arrivé. Notre première expérience,
c'était
Tel Aviv. On a eu un mail, on nous a demandé de répondre à un concours. On avait eu le concours, voilà, c'est tout. Puis après, on a travaillé à Bruxelles. C'est une autre expérience tout à fait par hasard. Après, on a même fait un stade à Moscou, mais ça, faut pas le dire parce que maintenant, on n'y va plus. Depuis la guerre, bien sûr, tout est arrêté pour nous.
C'est-à-dire que le projet est arrêté ?
Non, on a vu sur YouTube la semaine dernière qu'il se construisait tout seul, sans
vous.
Bah oui, bon. Moi je vais pas aller là-bas, quoi. C'est évident. Le Maroc, c'est une expérience avec un ami marocain, Amine Kabash, qui est extraordinaire, avec qui on refait d'autres projets, avec qui on s'entend très bien, et un espèce de bonne communion entre nos deux compétences, quoi. Et c'est des hasards à chaque fois. On n'a pas forcément décidé de travailler à l'étranger. Ça s'est fait comme ça. Ce qui est très amusant, c'est qu'on rencontre des gens différents. C'est moins amusant des fois, les contrats sont différents. Mm-hmm. Donc, faut s'habituer à travailler d'une autre manière, quoi. Voilà. On travaille plus de la même façon, on fait pas les chantiers de la même façon, on s'adapte, quoi. Donc, c'est assez amusant de s'adapter. L'adaptation, c'est un truc humain, quoi.
La flexibilité?
Oui. Et puis, apprendre à être différent, quoi, à évoluer. Moi, je m'amuse à évoluer, quand même.
Et alors, c'est bien, mais ça veut dire que l'adaptation de l'atelier Michel Raymond, qui devient maintenant Michel Raymond, qui est depuis un certain temps, Michel Raymond est associé, ça veut dire quoi, le après Michel Raymond ?
Ben, forcément,
une fois que tu travailleras moins ?
Ça veut dire qu'il y aura un après, forcément, mais j'ai pas envie que, par respect de tous les salariés d'abord, par respect de tout le travail qu'on a fait, ça disparaisse. Et puis j'ai envie, quand on met droit, je me confie un projet, qu'ils sachent qu'on ira jusqu'au bout. Donc pour ça, avec Alexis Payard, qui travaille à l'atelier depuis 20 ans au moins, on a décidé de faire qu'il prenne des parts petit à petit. Aujourd'hui, il a 40%. Dans un an et demi, il aura 70%. Et petit à petit, moi, je resterai forcément, parce que j'ai pas envie. Et là, je pense que ça en part très très bien. Donc la visibilité qu'il a à la tête de l'atelier à côté de moi, ou ensemble, quoi, elle est très nette. Donc il n'y a pas trop d'angoisse sur la durée de notre atelier. Je pense que je suis assez content de ça. J'ai eu de la chance.
Et on est aujourd'hui le 31 décembre. Nous sommes presque donc à la fin de cette année 24. Tu espères quoi sur 25, hein ? C'est quoi 25, hein ? Mis à part le fait que justement Alexis va pouvoir à tes côtés, on va dire, avoir un peu plus de responsabilité et prendre vraiment sa place. Mais ça c'est l'agence, ça c'est l'atelier. Sinon.
Sinon 25 c'est terrible parce que tout ce qui se passe dans le monde ça nous fait très peur. Donc ça fait partie d'abord de, quand on pense à 25, moi je pense d'abord à l'avenir du monde, quoi. Ensuite pour nous, pour le moment nous, on a un carnet de commandes qui marche à peu près bien, donc l'année 2025 n'est pas trop paniquante. Après, j'espère avoir des tas de beaux projets, des tas d'aventures, et c'est ça, c'est drôle quand on pense à ça, c'est joli quand on pense à ça, je dirais. C'est que je sais pas quelle aventure on va avoir, et je rêve d'avoir des belles aventures, je sais pas lesquelles, parce qu'à chaque fois, j'ai eu de la chance, et j'ai eu des malheurs aussi, mais globalement, j'ai eu de la chance, et j'ai envie de continuer à avoir de la chance.
Et toujours dans le monde entier, évidemment.
Oui, pas forcément, mais aussi forcément. Oui, les choses arrivent comme elles arrivent aussi. Il faut être ouvert à tout, quoi, je pense. C'est amusant. C'est ça qui est
une belle philosophie.
Voilà.
Merci Michel. Et à bientôt sur nos antennes, chers auditeurs. Belle année 25, hein, nous l'espérons tous.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.